1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, la 106e. Au programme de cette émission, c'est 4 sujets que nous allons aborder ensemble ce soir. On va commencer, Fabio, par le collectif R. Souvenez-vous, on en a parlé déjà plusieurs fois sur Django et il y a du nouveau ce soir.
Oui, c'est le collectif Jean Dutoit, c'est pas le collectif R. Il y a plusieurs collectifs dans cette ville.
Oui.
Donc collectif Radio Django, mais non, là on est le collectif Jean Dutoit, qui se préoccupe de donner du logement à une centaine de migrants depuis 2015. Mm-hmm. Il y a des nouveautés puisque Jean Dutoit revient sur Lausanne. Il vient d'occuper un bâtiment pour donner, toujours pour héberger une quantité de migrants. Et on va en parler avec un membre du collectif et une personne qui est hébergée dans ce bâtiment.
Voilà, tout ça donc dans quelques instants dans Vivre à Lausanne. Dans une vingtaine de minutes, La Rose des Vents. Et nous allons à la rencontre de Yanar Mohamed pour parler de militantisme pour les femmes en Irak. C'est avec toi, Daniel.
Alors, une femme étonnante que j'ai pu rencontrer à la Datcha le 8 juin. Et par sa conférence, en fait, j'ai pu découvrir avec les autres invités la forme de précarité dans laquelle s'installent les femmes en Irak et qui subissent de plus en plus de violences physiques et morales. Et en fait, les droits des femmes semblent régresser.
Voilà, on aborde donc cette grande thématique dans une vingtaine de minutes. Et puis, un deuxième sujet dans La Rose des Vents ce soir avec Lamine de la rédaction de Voix d'Exil. Nous allons nous rendre du côté de la Grèce pour découvrir des portraits de réfugiés et de bénévoles. Voilà, ce sera le deuxième sujet de cette Rose des Vents. Et puis, à 7h20, en cette veille de fête de la musique, Jean-Luc, nous allons parler de l'organisation de ce dit événement.
Alors oui, c'est demain, c'est la fête de la musique. Donc, on a invité Dominique Mermoux, qui est directrice exécutive de la fête, qui vient nous parler un petit peu toute son expérience. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'elle travaille avec la fête de la musique. Donc, on nous fera un petit historique aussi.
Et aussi quelques envies pour demain, puisque c'est la fête de la musique à Lausanne, mais partout en Europe. En tout cas, le collectif Jean Dutoit, le militantisme féministe en Irak, les îles grecques dans un projet photo et la fête de la musique 2017, c'est le programme de ce mardi 20 juin dans ce grand direct de Radio Django, à écouter sur radio.django.fm et sur La Fabrique, en DAB sur le bassin limanique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et on l'a dit, nous allons parler ce soir, Fabio, du collectif Jean Dutoit, qui s'est constitué en 2015 et qui se préoccupe de donner un logement à une centaine de migrants.
Oui, et récemment, il a fait reparler de lui, puisque dans l'obligation de quitter le logement qui était depuis l'automne passé dans des anciens locaux industriels à Romanel, il a investi mercredi dernier un bâtiment en ville de Lausanne dans le quartier de la Blécherette.
Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir à nos micros Frédéric, membre du collectif Jean Dutoit. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis également Charles, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes Charles, originaire du Nigeria, vous habitez dans la maison actuellement occupée. Charles parle anglais et c'est donc vous, Frédéric, qui allez faire la traduction.
Tout à fait.
Bonjour à tous les deux. Alors tout d'abord deux mots, Frédéric, pour mieux comprendre le collectif. Il est composé par qui et quelle est son action en deux mots?
Justement, je vais déjà en profiter pour rectifier deux, trois informations. Donc il n'est pas tout à fait exact de dire que moi je suis membre du collectif et que Charles serait un résident, puisqu'en fait tous les membres du collectif sont résidents de cette maison et il y a des personnes qui sont là, des personnes locales, suisses ou autres, qui sont en fait des soutiens et qui font aussi partie du coup des membres du collectif.
D'accord. Ouais.
Et l'autre précision que j'aimerais apporter, c'est pour dire qu'effectivement nous avons changé de maison très récemment, mais ce n'était pas mercredi, c'était dimanche dernier. Donc nous sommes déjà là depuis une dizaine de jours. Les choses commencent à s'organiser à la Blécherette, au chemin des Sauges 30.
D'accord. Okay.
Et voilà, le collectif est composé effectivement d'une centaine de personnes qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest. Et c'est des personnes qui sont dans des situations très précaires en Suisse, étant donné que Premièrement, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles ont la peau noire et n'ont pas nécessairement des permis de séjour en Suisse, ce qui fait que la police s'amuse à les courser très régulièrement et avec des moyens extrêmement discutables. On constate de nombreux abus et on est aussi là en tant que collectif pour se soutenir les uns les autres et pour essayer de faire pression et de mettre en route des choses à cet égard.
D'accord. Tu l'as dit, donc c'est principalement des personnes noires qui provenant d'Afrique. Il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants, voire de familles.
Alors il s'agit seulement d'hommes. La raison on est à la fois que ce sont des hommes qui se retrouvent ici en dehors des structures, qui prennent le risque aussi de voyager seuls pour essayer de trouver du travail dans d'autres pays. Les familles en général préfèrent plutôt des cadres plus sûrs avec parfois des meilleures conditions d'hygiène ou autres. Et on a finalement trouvé que ça marchait bien entre hommes. Alors ça pose toute une série de problèmes en soi, mais c'est une autre question.
Dans quelles conditions ça se passe cet hébergement actuellement ?
L'hébergement actuel à la Blecherette, vous voulez dire ? Alors la Blecherette, c'est au chemin des Souges. C'est un bâtiment locatif qui comporte environ 14 appartements. Des appartements de 3, 2 pièces, 1 pièce. C'est un immeuble en fait, qui était laissé à l'abandon par ses propriétaires. On sait que les forces de police faisaient des exercices à l'intérieur de cette maison. Voilà, pour l'instant, nous, on est en négociation. Alors, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on est très vague au niveau des informations reçues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif a eu des conditions de vie beaucoup plus difficiles auparavant, dans des halles industrielles, à l'extérieur de la ville, dans des situations qui ont parfois été compliquées. Là, au moins, il y a des toilettes et une petite cuisine dans chaque appartement que les gens peuvent utiliser. Et puis, à part ça, c'est toute une organisation interne avec une réunion générale chaque semaine où on discute de tous les problèmes de la maison et d'autres éléments du même genre.
Charles, bonjour.
Hi. Bonjour.
How are you?
I'm fine.
Vous êtes en Suisse depuis quand et quel est votre statut?
So since when are you in Switzerland and what is your status, legal status?
Yeah, I've been around for like I've been in Switzerland for like a year now and I have a legal residency from Spain.
Donc il est en Suisse depuis how long?
A year.
One year. Depuis une année.
Depuis une année.
Et puis il a un permis de résidence en Espagne.
D'accord. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes le plus confronté ici, ici à Lausanne, en Suisse en général?
One of the problems we actually have here in Switzerland is the fact of being a young black man here. You know, most often we have this stigma on us that you know the most especially the issues of drugs. You know, once the police see a young black man, all they think about is that you're a drug dealer. Without actually wanting to know what you do, or you know, that's one of the problems we have actually. Mm-hmm.
L'un des problèmes principaux que nous avons ici, c'est d'être simplement des jeunes hommes noirs, et le fait que la police identifie de manière immédiate en fait les jeunes hommes noirs avec des dealers.
Des dealers. Ouais.
Et la catégorie est fermée.
Vous, ça vous arrive d'être contrôlé, vous et les gens que vous connaissez avec lesquels vous habitez, vous êtes contrôlé tout le temps?
Does it happen very often that you and the guys from the house are controlled by the police? Is it happening very often?
I think it's not just about us, the guys in the house. It's just about you being a young black man. You know, it's not.
C'est pas seulement à propos des gens qui habitent dans cette maison, c'est vraiment sur le fait général d'être un jeune homme.
It happens regularly.
Bien sûr.
Ça arrive très régulièrement.
Especially when you are isolated and outside on the street, when you're on your own, you know.
Spécialement quand on se trouve isolé dans la rue et qu'on est juste tout seul, à ce moment-là, ça arrive encore plus fréquemment.
Frédéric, la maison où vous êtes maintenant, voire même là où vous habitiez avant, où le collectif était avant, elle est très observée, elle est très contrôlée. Mais...
La maison dans laquelle on se trouve à présent. Alors, toutes les maisons dans lesquelles on s'est trouvé ont été contrôlées. À Romanel, là-bas, on a eu un contrat de confiance avec le propriétaire du bâtiment. Donc, a priori, on était dans une certaine légalité. Pourtant, il y avait des patrouilles de police qui passaient très régulièrement. On les voyait chaque semaine, etc. Donc, il y a une observation continue. Maintenant, en ville de Lausanne, évidemment, la police s'en inquiète aussi. c'est certain. On a certains contacts avec la police par ailleurs pour essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et puis, il y a aussi des voisins qui sont inquiets et qui peuvent parfois appeler la police. Alors, nous, on aimerait bien sûr pouvoir les rassurer. On n'est pas une bande de sauvages, pas du tout. On est des gens organisés, civilisés, qui avons parfois des mœurs un peu différentes, mais enfin...
Et vous avez fait des démarches pour toucher les habitants proches ?
Absolument. Alors, dès qu'on est arrivé, en fait, le jour même, on a évidemment envoyé une lettre au propriétaire des lieux. Et puis, on a placé dans la boîte aux lettres de toutes les personnes du voisinage une lettre qui annonçait notre arrivée et qui expliquait en gros comment est-ce que nous, on fonctionne et qu'on veut simplement être accueillis dans ce quartier, participer à la vie du quartier, si c'est possible. On a déjà commencé à utiliser les terrains de foot qui se trouvent juste en face, à la Blecherette. Mm-hmm. Il y a vraiment des joueurs d'exception et des gens qui ont vraiment envie de jouer et d'être ensemble pour faire du foot. Donc, mm-hmm. C'est super de pouvoir le faire, d'encontrer des gens.
Charles, est-ce que vous avez une activité qui vous permet de subvenir à vos besoins?
Oh, you're talking about the activities in the house.
No, okay. Yours, an activity where that can with which you can sustain yourself.
Most often we have people on the street, like I said when we were talking. People we actually some of us work. Like we have Swiss people here in Lausanne who come to the house and they want people to go help them in their farmlands. You know, that's one of the things we do, clearing of gardens, you know, maintaining, it's one of the things that we do. And most often, people come around, they want a helping hand in packing, to pack goods from one house to the others. So that is one of the things that most of us do. I especially, you know, I do that.
Il dit qu'il y a différentes choses en fait qu'il mène comme activité. Il y a souvent des personnes suisses qui viennent à la maison et qui proposent un petit emploi temporaire pour travailler dans les champs, pour travailler au maintien d'un jardin par exemple, et aussi beaucoup pour faire des déménagements. Ils vont là où il y a des gars qui sont bien bâtis quand même et puis qui ont très envie de faire quelque chose aussi.
Frédéric, le statut de Charles et puis ce qu'il est en train de nous raconter, est-ce que ça correspond un peu à la plupart des personnes qui sont hébergées chez vous, enfin chez eux?
Oui et non. Sur la situation qu'ils vivent en Suisse, probablement que oui. Par contre, il y a des gars qui viennent d'origine... qui ont des origines différentes, qui ont des parcours très différents. Certains sont passés par la Libye, ont traversé la Méditerranée, d'autres sont arrivés il y a plus longtemps. Il y a plusieurs parcours, mais effectivement, il y a certains points communs notables.
Et elles n'ont pas de droit ni à logement ni à couverture sociale?
Alors non, clairement, les logements d'urgence en fait à Lausanne, qui pourraient être les seuls à pouvoir accueillir des personnes comme eux, sont déjà pleins à craquer. Il y a déjà trop de gens précaires sur la région pour qu'elles puissent toutes être accueillies. Donc la centaine de personnes que notre collectif accueille, en fait, va finalement aider les collectivités publiques à faire face à ce problème. Donc on a souvent l'impression qu'on sert à quelque
Vous
chose.
Faites le travail à la place, quoi.
Quelque part.
Alors, voilà, tu viens de lancer la prochaine question. Le rapport avec le politique. Est-ce que le politique, il fait justement la sourde oreille parce qu'il s'agit de cas de clandestins et puis que le travail que vous faites, ça sert bien ou est-ce qu'il y a des discussions? Quel est le rapport avec le politique, disons, de façon un peu générale?
Je dirais qu'il y a des discussions très restreintes et officieuses avec des personnes parfois qui nous soutiennent. Il y a des personnes dans le milieu politique qui nous soutiennent de manière explicite et on a eu la chance de rencontrer des personnes comme ceci qui nous ont soutenus pour notre dernier contrat avec le propriétaire de Romanel et on les remercie vivement. Mais par ailleurs, au niveau des politiques plus officielles, que ce soit la municipalité ou le canton, c'est la sourde oreille perpétuelle et aucune envie de s'avancer dans ces problèmes qui ne concernent évidemment pas que Lausanne, mais aussi le canton, la Suisse et l'Europe
en son
entier. Mmh. Et là, il y aurait vraiment des choses à faire. Tout le monde le sait très bien et le laisser aller est aliénant et insupportable.
Fabio, les occupations de Jean Dutoit avaient déjà commencé en 2015, hein, on le disait en introduction.
Oui, et avec la création d'un campement dans le jardin du Sleeping à Renault, Elles avaient ensuite continué dans une ancienne école à Lausanne, puis dans les locaux appartenant au canton de Vaud à Renault, avant de s'installer dans la zone industrielle de Romanel que vous venez de quitter maintenant. Hein. Voilà, et donc là, on l'a dit tout à l'heure, la semaine passée, enfin dimanche, déjà il y a 10 jours, vous avez quitté pour venir à la Blecherette.
Alors Charles, comment ça se passe dans ce nouveau logement à la Blecherette?
Oh, is it in the new house?
Well, we're still in progress, you know. Right now, there is no water, there is no light, but like we just hope with time things will get better. So we're still in the progress of working things out.
Pour l'instant, on est en processus de nous établir. On n'a pas encore d'eau et dès lors, il y a encore beaucoup à faire.
Il y a pas encore l'eau.
There's no water.
No, there's no water. Right now in the house. We have well-meaning neighbors who come around, okay. You know, and sometimes they ask us to take water from their houses, the mm-hmm. good ones, and there are some who just want to see us, you know.
Donc il y a des voisins sympas qui en fait amènent de l'eau. On remplit notamment un conteneur pour pouvoir faire face aux grosses dépenses d'eau qu'une maison comme celle-ci aura. Et puis bien sûr il y a des voisins aussi qui sont moins contents de nous voir et qui ne font pas de tels gestes.
D'accord. Donc il faut rétablir l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à rétablir l'eau? Non mais ça demande des négociations avec le propriétaire, j'imagine. Vous en êtes où?
Alors, on n'a pas encore eu de nouvelles, en fait. Le cas semble, comme nous l'a dit quelqu'un à la police, le cas semble être entouré d'un flou artistique. Il semblerait que la maison, en fait, intéresse la ville de Lausanne. Et puis, d'un autre côté, les propriétaires sont aux abonnés absents. On est au contact avec le gérant de l'immeuble, qui devrait nous donner des nouvelles, probablement cette semaine, pour voir ce qui se passe après.
Donc la ville de Lausanne, elle est intéressée pour racheter cette maison, c'est ça?
Oui, c'est ce qu'on a entendu. Alors après, ce n'est pas une information qui est certaine, mais c'est ce qu'on a entendu.
Mais pas après que vous soyez arrivé?
Ça, c'est une question qu'il faudrait.
Ah ok, regardez directement. Charles, quel est le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui?
Ok, je pense que le message que je veux donner est pour les gens de savoir que nous sommes toujours ici. Je pense que la dernière fois que nous étions sur cette... same interview. We actually solicited for help of well-meaning individuals because we have a lot of people come around sometimes to help us. So the fact is that we're still here, same conditions, nothing has changed, and we just want people to come to our aid because we are able young men who want to work, who want to contribute their quota to the society, and we just want to be given a chance.
Il dit que... Et comme il l'avait déjà dit à la dernière émission, qu'il aimerait simplement que les gens puissent venir se sentir libres d'approcher la maison, d'approcher le collectif et d'apporter leur aide, quelle qu'elle soit, parce que nous sommes des jeunes gens qui avons envie de travailler, avons envie de faire des choses ici en Suisse. Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment être d'une grande aide pour nous.
Pour vous, Frédéric, quel serait le message que vous souhaiteriez transmettre ce soir au nom de Jean Dutoit?
Alors, je vais juste commencer par une petite annonce. Il y aurait un pique-nique dimanche qu'on va organiser probablement à la maison.
Pique-nique rencontre ?
Voilà, pique-nique rencontre et notamment sûrement avec les voisins et tout ça. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations. Vous tapez collectif Jean Dutoit et vous aurez plus d'informations. Et puis par ailleurs, je pense un des messages principaux, c'est de dire aux politiques, réveillez-vous, parce que nous, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, il y a tellement de belles énergies et de moments partagés qui sont sublimes, et on ne comprend pas pourquoi les gens continuent de faire la sourde oreille. Et par ailleurs, il y a vraiment une incurie au niveau de l'État dans la gestion de certaines forces de police qui continuent d'abuser des personnes physiques en les insultant, en leur portant des coups, et ceci de manière illégale. Donc il y a plusieurs zones sur lesquelles nous, on aimerait attirer l'attention du public. C'en est une. Et voilà, c'est déjà quelque chose d'important.
C'est déjà une grosse mission, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup également à Charles. Merci d'être venu nous parler ce soir du collectif Jean Dutoit qui se mobilise pour donner un toit aux migrants. On rappelle que c'est une centaine de personnes qui viennent d'investir un immeuble dans le quartier de la Blecherette après avoir dû quitter le logement où ils demeuraient depuis l'automne dernier. Espérons que la presse nous tiendra au courant de l'évolution de la situation, surtout maintenant que l'été s'installe et que la dynamique politique se déroule un petit peu en cachette du regard du grand public. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. On rappelle encore votre page Facebook, on peut vous suivre, Jean Dutoit.
Collectif Jean Dutoit.
Collectif Jean Dutoit, voilà, qui est complet. C'est un sujet et une série à retrouver sur notre site. Une série, je dis ça bien sûr, pour voir l'évolution du cursus. Une série à retrouver sur notre site www.django.fm. Un sujet proposé ce soir par Fabio. Merci.
Mais avec plaisir.
Sharon Jones sur Radio Django à 18h22 et on passe à La Rose des Vents.
Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, un sujet sur la situation des femmes en Irak. Dans un contexte politique de plus en plus instable, les femmes sont de plus en plus touchées par diverses formes de précarité et qui subissent de nombreuses violences morales et physiques. Les droits des femmes dans cette région du monde semblent régresser. Terre des Femmes Suisse, préoccupée par cette problématique, a invité dans le cadre de Voix des Femmes une activiste féministe engagée dans la défense des droits humains en Irak. Alors Daniel, avant de rentrer dans le vif du sujet, que fait au juste Terre des Femmes en Suisse ?
Alors Terre des Femmes Suisse est une organisation non gouvernementale qui s'engage contre les violences des droits humains, des femmes et des filles. Chaque année, cette ONG basée à Berne invite dans le cadre de son cycle de manifestations annuelles Voix de Femmes une experte internationale susceptible de nourrir le débat autour de l'égalité et des violences liées au genre dans différentes régions du monde. Et c'est dans ce contexte qu'a été invité Yanar Mohamed, qui a donné en juin plusieurs conférences dans différentes villes de Suisse. Une femme surprenante que j'ai pu découvrir et écouter ce 8 juin à la Dacha à Lausanne.
Alors avant d'écouter un extrait de cette conférence de Yanar sur la situation des femmes en Irak et sa lutte, quel est brièvement son parcours ?
Architecte de formation, Yanar a vécu 10 ans au Canada avant de retourner à Bagdad en 2003. Depuis plus de 15 ans, elle se bat pour l'égalité et s'est engagée dans la défense des droits des femmes, ce qui l'a conduit à ouvrir les premiers centres sécurisés pour des femmes victimes de violences en Irak. Et elle a fondé l'association OIFI, Organization of Women for Freedom in Iraq. Et Yanar a plusieurs fois été récompensée pour son travail par des prix internationaux. Et pour commencer, Yanar nous raconte comment est née son association. Je remercie Frédéric qui m'a aidé pour la traduction, la conférence étant en anglais.
In the year 2000, 2003, that's when we decided to set up the Organization of Women's Freedom in Iraq. At that time, it was only a few of us women. It wasn't all of these. It was myself and two other women who decided that we could have an organization by the name of Women's Freedom in Iraq, and that's from where the name Aufi comes. And we thought, what do we want to do in Iraq? Our expectation was that Iraq will not become that oasis of freedom that we are being promised. Iraq will be a place where women's rights will not be observed. Iraq will be a place where the political vacuum will be attracting all the extremist Islamism from the region, and Iraq will be a place that will be a source to export terrorism also to the rest of the world. So our role was to sit there and to be the observers of violations of women's rights. And how will we do it? We were thinking at that time. I did not see the solution very clear. Now when I look at it in hindsight, the support was from an international women's movement that sisterly support each other, and they become a movement. And one of the video clips that shows me that this is the right solution was the day, let me take you to the US, to the other side of the world. In our heads, we could see that women will be that strong arm to change the politics of the new millennium.
En 2003, en Irak est née cette association qui est devenu le mouvement de libération de la femme. L'Irak n'était pas un exemple de respect du droit des femmes parce que c'est une société patriarcale. C'est ainsi que, dans les premiers balbutiements, des ONG féministes à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, etc., ont commencé à s'intéresser à ce mouvement de libération des femmes en vue de leur apporter un soutien concret pour qu'elles puissent développer leurs actions sur le terrain.
Some of us think that what was done against Iraq, the war that started in 2003, was not the right thing. This imperialist attack on our well-being, on our rights as people should not have been done. And what it did is that it exploded the forces of extremism in the government and in opposition, to which the women have fallen as victims. We feel that in spite of many governments having changed in Iraq, they come and go, the women, the feminists are there to stay. And our network of shelters, and I have to clarify here, the government does not approve our network of shelters. They say there is no legislation that gives legality to your shelters.
En 2005, la guerre faite à l'Irak a suscité beaucoup de frustration dans la population irakienne, également dans la population féminine irakienne, parce que pour beaucoup d'Irakiens, c'était une guerre qui n'avait qu'un but impérialiste et rien d'autre. Cela a donc donné naissance à des extrémismes de tout poil qui ont contribué à dégrader encore plus les droits des femmes. Le gouvernement irakien ne pouvait donc s'appuyer sur aucune législation pour soutenir les centres dédiés aux femmes, étant donné que dans la législation irakienne, il n'existe aucune disposition à cet effet.
Yeah, lawmaking is the beginning, and it's a very good point of entry to the struggle. But the other important part is that the forces of the women, the feminist groups, are on the ground. They are working. When the extremist groups were empowered by some regional and international support, why not empower and support the women because they come from a standpoint in the society where they grew up with social oppression. They know what it means, what it feels like to be the lower one in the society, the less powerful one in the society. So they know exactly how to fight oppression, and they know how to bring a real political change for themselves and for every other disempowered and dispossessed groups on the ground.
Pendant que les groupes politiques et extrémistes reçoivent toute l'aide nécessaire de gouvernements étrangers et autres, les femmes, elles, sont en reste. Pourtant, ce sont elles qui sont sur le terrain. Pourquoi les puissances étrangères ne misent-elles pas sur ces groupes de femmes qui sont déjà sur le terrain et font un travail formidable? Étant donné que ces femmes comprennent mieux que quiconque le sens du mot oppression, elles vivent l'oppression depuis le plus jeune âge.
I believe that when we want to start a movement, we start from the places that are possible. And myself, I come from a leftist background. And we set the model out there for the society that there are women who are putting their face out there and saying that we will not live in a society of inequality. So these oases of freedom are growing. They are growing in a visible way that we can see. The reason that I made the map for the very first time and put it in a presentation was because we do have a visible existence in Iraq now. We can reach to places that the government cannot start working in. We can do things that the international community cannot do. And we do have the will and we do have the determination.
La motivation de Yarnar vient de l'environnement dans lequel elle a grandi. Elle est d'une famille qui était très à gauche, ce qui donc lui a permis d'être consciente très tôt du discours et du combat politique. Elle est partie de rien en commençant à parler et à mobiliser les femmes dans la rue, dans un tout petit local, pour arriver aujourd'hui à 3 centres à travers le pays, une radio et un journal, avec des centaines de volontaires qui viennent en aide aux femmes et au-delà des femmes à ceux qui sont dans le besoin. Ces femmes sont en train de changer la structure sociale de la société irakienne par leur combat et par leur travail de terrain. Elles atteignent des gens dans le besoin que ni l'État irakien ou la communauté internationale n'arrivent à atteindre et à aider. Ce qui est un encouragement pour l'avenir.
Un dossier sur la situation des femmes en Irak proposé par Daniel. Merci.
Radio Django, 18-19h.
18h32, je suis en compagnie ce soir de Lamine de la rédaction vaudoise de Voix d'Exil. Bonsoir Lamine.
Bonsoir Fabien.
Lamine, tu as invité ce soir Jean-Pierre Vicario. Bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous travaillez à l'EVAM, vous êtes également photographe et vous avez récemment réalisé un travail intitulé « Portrait de réfugiés » sur l'île grecque Chios, qui se trouve à proximité de la côte turque. Cette île est d'ailleurs connue pour être un lieu de passage d'immigrants qui se rendent en Europe. Vous vous y êtes rendu le printemps dernier initialement pour vous engager auprès des bénévoles qui secourent les migrants arrivés sur les côtes généralement de cette île. Portrait de réfugiés va donner lieu à une exposition qui sera d'ailleurs vernie demain, mercredi 21 juin, dans les galeries genevoises V60 à la rue de la Valande, la rue des Volondes 60 à Genève.
Merci à Jean-Pierre Vicario d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu l'envie de partager avec nos éditeurs votre engagement sur l'île de Chios suite à une conférence que vous avez donnée à l'EVAM. Je me suis dit que c'est important de mettre en valeur votre travail, car vous êtes un témoin oculaire des drames quotidiens que vivent les exilés qui cherchent à franchir la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Merci à vous pour l'invitation.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le camp où vous viviez?
Alors, plutôt le camp dans lequel je travaillais, sur l'île de Chios, il y a deux camps en fait, de réfugiés. Le premier, c'est le camp de Vial, qui est géré par une structure militaire où les bénévoles n'ont pas accès du tout. Et puis, moi, j'ai pu travailler sur le camp de Souda, qui se trouve au centre-ville, en fait. Centre-ville, mais qui borde la plage, près du port, dans lequel il y avait à peu près 1 000 000 de personnes qui vivaient là, dans des tentes. Vraiment l'image qu'on se fait du camp de réfugiés, mais on est en ville, et puis on est en Europe, quoi.
Quelles sont les activités des bénévoles que vous fréquentiez?
Alors, les activités du CERST, donc le groupe avec lequel je suis, j'étais sur place, c'est le CHIOS Eastern Shore Response Team, a été créé pour vraiment apporter une réponse rapide. Donc, ils ont deux types d'activités. La première, dont l'urgence, c'est vraiment l'accueil des bateaux. Quand les réfugiés arrivent sur des bateaux ridicules, en caoutchouc, enfin des trucs pas possibles, où ils sont vraiment beaucoup trop dessus. Et puis, ils sont restés coincés pendant des heures sur l'eau, ils sont mouillés, ils ont faim, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils sont cachés peut-être avant de prendre le bateau. Donc, la première des urgences, c'est d'accueillir ces gens, de leur souhaiter la bienvenue, déjà, et puis leur offrir quelque chose à boire, de l'eau, un petit peu de nourriture, et puis des habits secs, surtout, pour qu'ils puissent se changer, puis avoir des habits secs. Et avant que ces gens-là soient conduits par les autorités, plus ou moins pour l'enregistrement, dans le camp, justement, dans le camp de Vial, où là, on a plus accès. Donc, il y a un petit moment court pour vraiment apporter une aide sur place, vraiment très, 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 très rapide. Et puis, les autres activités sont plutôt sur le long terme. Le groupe a mis en place un centre de langue où des bénévoles dispensent des cours d'anglais. Il y a une maison des enfants où les mômes, les petits qui vivent dans des tentes, hein, dans un camp un petit peu spartiate comme ça, peuvent aller prendre une douche, se baigner, jouer dans un espace complètement sécurisé.
Parce que dans cette zone d'arrivée, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles, il y a tout.
Tout est mélangé. Ouais. Ouais. Et des mineurs non accompagnés aussi, qui sont pas mal laissés à eux-mêmes. Et puis d'autres activités, distribution de vêtements, distribution de nourriture, le thé de 4 heures qui est super important, qui est vraiment un moment de partage, de lien, où les bénévoles peuvent aussi observer les gens, voir un petit peu s'il y a des cas vulnérables, des gens qu'il faudrait pousser un peu pour qu'on les prenne en charge correctement. Donc plein d'activités, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le bénévolat à l'île de Chios?
Ben, ça fait 18 ans que je travaille à l'EVAM. Aujourd'hui, j'enseigne aux nouveaux collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise. Je leur donne plein de d'informations sur comment ça fonctionne chez nous, etc. Et puis, aujourd'hui, je me sentais un petit peu loin du terrain. Ceux pour qui j'ai commencé à travailler, à l'époque, c'était Farias. Et puis, j'avais juste envie de prendre un petit moment pour moi, pour aller vraiment mettre les mains un petit peu là où c'était chaud, quoi, en première ligne. Et puis j'avais aussi envie de parler, documenter un peu le travail des volontaires, ces gens qui... J'ai lu l'autre jour un petit mot super des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, quoi, qui prennent du temps sur eux pour aller donner un coup de main, pour aller faire quelque chose que les autorités font pas, que les grosses ONG assurent pas. Puis je voulais raconter un petit peu ce qui se faisait. Donc ça, c'était un petit peu l'idée première. Et puis, en tant que photographe, d'aller photographier les gens, évidemment. Je me suis rendu compte que je suis rentré avec plus de photos de réfugiés que de photos de bénévoles. Voilà.
Combien de temps y êtes-vous resté et où viviez-vous?
Alors, je suis resté 2 semaines. J'ai pris les vacances de Pâques, hein, qui étaient faciles, entre guillemets. Et puis, je vivais chez Toula. Alors, Toula, c'est un personnage, on l'appelle... l'ange de la mer Égée ou la déesse de la mer Égée, enfin, elle a plein de surnoms. C'est quelqu'un qui a une pension de vacances, en fait, près de la ville de Chios, et qui, au début octobre 2015, a vu débarquer devant sa plage le premier bateau rempli de réfugiés, et puis elle a décidé de s'en occuper, de faire quelque chose pour ces gens qui sont arrivés, qui étaient complètement trempés. Et puis, depuis début octobre 2015, elle n'a pas arrêté. Jour et nuit, 7 jours sur 7, elle s'occupe, elle coordonne, elle a créé le CERST. Et puis évidemment, son lieu de résidence de vacances est devenu, à force, un peu le shtam, l'endroit où sont logés la plupart des bénévoles qui viennent travailler sur l'île. Alors pas que là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. À Pâques, lorsque j'étais sur place, on était une trentaine de bénévoles. Aujourd'hui, 150. Donc il y a des gens qui vivent là, des gens qui vivent aussi en ville. Mais moi, j'étais logé là avec d'autres bénévoles, ce qui rendait plus facile l'accès au groupe, le travail de groupe.
Quelle était votre mission?
Alors, j'avais pas de mission particulière. Chacun fait un peu ce qu'il veut faire, là où il se sent à l'aise. dans ce qu'il sait faire. Alors moi, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du tri d'habits, j'ai fait de la menuiserie, j'ai construit des étagères avec des vieilles palettes qu'on a démontées, récupéré les clous pour fabriquer quelque chose. J'ai fait de la distribution de vêtements, j'ai fait le thé, je suis allé au bateau plusieurs fois, de jour, de nuit. J'ai passé des nuits blanches à veiller sur les gens qui venaient d'arriver, parce qu'évidemment, quand vous avez 50, 60, 70 personnes qui arrivent sur un ridicule bateau et qui doivent attendre le lendemain pour pouvoir être pris en charge par les autorités, eh ben, ils passent la nuit dehors, donc on reste avec eux. On essaie de s'organiser pour amener un petit peu quelque chose de chaud à manger. Donc ça, c'est aussi prenant. Et puis j'ai fait des photos, évidemment. J'ai fait des photos tous les jours. Quoi.
Quel a été votre dispositif photographique ?
J'ai travaillé avec je travaille depuis plusieurs années avec du matériel Fuji, très petit. L'idée pour moi, c'est d'avoir d'oublier le gros boîtier un peu imposant comme ça pour vraiment travailler avec du matériel qui soit, j'ai envie de dire, humble, qui permet de faire oublier un petit peu le matériel puis vraiment de se concentrer sur l'autre sans arriver qu'un gros réflexe, chose comme ça. Et puis l'idée pour moi, c'était non seulement de partir avec l'appareil photo mais également avec une petite imprimante Instax qui permet d'imprimer à la prise de vue, enfin, je fais la photo et puis avec une petite connexion Wi-Fi entre l'appareil photo et l'imprimante, ça permettait de sortir un petit tirage, un petit polaroid qui fait 4 par 6 cm que la personne peut mettre dans son porte-monnaie, dans son téléphone. Je voulais rien de très grand parce que ces gens n'ont rien, ils n'ont pas de place pour mettre des choses grandes, ils n'ont pas de mur pour afficher des photos. Par contre, ils ont tous un porte-monnaie, un téléphone pour pouvoir garder ce souvenir comme ça. Et puis c'est un petit peu l'échange, quoi. Tu me donnes 2 minutes, ben, je te donne une image et puis donner un petit peu l'occasion à ces gens d'être vus différemment que comme un réfugié dans un camp, quoi.
Avez-vous été en contact direct avec les migrants là-bas ?
Oui, complètement, tout le temps. Je suis même resté en contact avec certains d'entre eux via les réseaux sociaux, via Facebook. Le contact est super important. Il se fait pas tout de suite. On a besoin d'un petit peu de temps pour commencer à s'observer, oser discuter, trouver des sujets intéressants sans chaque fois être le nouveau bénévole qui vient poser les mêmes questions que le bénévole la semaine passée a posé, etc. C'est d'aller un petit peu nouer des liens et puis on arrive à échanger, avoir vraiment des contacts qui sont vraiment super super sympas. Moi, j'étais surpris du positivisme de ces gens, de la banane qu'ils avaient tout le temps, être toujours le sourire. Pas tous, il y a des moments difficiles, hein, pour tout le monde aussi. Mais ouais, beaucoup de gens avec beaucoup, beaucoup de positifs, quoi. Vraiment très intéressant.
Quels sont les échanges les plus forts qui vous ont le plus marqué ? Avez-vous des anecdotes à nous raconter ?
Oh ben, des anecdotes, j'en ai plein, on pourrait y passer la nuit.
C'est vrai que passer 2 semaines là-bas, on doit en avoir des anecdotes. Hein.
Ouais, même si 2 semaines, c'est vraiment, vraiment court. Hein. Mmh. Il ne faudrait pas moins. Non, des anecdotes... Ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce côté positif des gens. Des nuits blanches sur la plage, à faire plein d'images, à discuter avec des gens qui ont des idées en tête, qui ont des rêves d'avenir, mm-hmm. qui nous parlent de ce qu'ils ont quitté un peu, mais surtout de ce qu'ils ont envie de construire. Ouais, des échanges très très riches, quoi.
Pourquoi toutes ces organisations de bénévoles actives sur l'île de Chios vont partir le 31 juillet alors qu'il y a toujours tant de personnes à secourir ?
Alors, j'en sais rien, en fait.
Ça, c'est une bonne réponse.
Ouais,
on aimerait bien savoir un peu plus.
Je ne suis pas un grand spécialiste de la politique, de loin pas. Mais ce que je comprends, c'est que les grosses ONG, Nations Unies, etc., financent l'aide, apportent de l'aide pendant une durée déterminée. Et puis après, le sortir, puis c'est aux États de prendre leurs responsabilités. Et puis visiblement, là, on arrive à un tournant où la Grèce doit prendre ses responsabilités.
Ça va être possible ?
Non, très clairement, il faut être clair. Malgré la présence des ONG, et puis je les ai listées pour ne pas les oublier, j'en ai une quinzaine ici sous les yeux, d'ONG que j'ai côtoyées, il y en a d'autres que je n'ai pas vues, que je n'ai pas rencontrées. Avec tout ce personnel sur place, les volontaires, les bénévoles, les ONG, etc., l'État grec n'est pas en mesure de faire face, très clairement. Aujourd'hui, les organisations vont se retirer, les organisations médicales, WAHA, le NRC, le Norwegian Refugee Council, qui s'occupe de tout ce qui est distribution de nourriture, Médecins du Monde, etc., d'autres, Save the Children's, vont se retirer, sont en train de commencer à se replier.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer donc à partir du 1er août ?
Je ne sais pas. Ça va être difficile. C'est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. La mer est navigable. Il faut imaginer que la distance entre les côtes turques et Chios, c'est la distance entre Lausanne et Évian. C'est super court. Les gens continuent à arriver. Des bateaux qui arrivent pas tous les jours, mais presque. Aujourd'hui, les camps sont pleins. Il y a 4000 personnes sur l'île. Ceux qui ne sont pas hébergés dorment dans la rue. Ou dans les centres que CERS met à disposition la nuit, on les transforme en centres d'hébergement. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas être joli, quoi.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler sans doute à la rentrée pour suivre cette actualité brûlante qui se passe en Grèce notamment. Merci beaucoup Jean-Pierre Vicario.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre expérience sur les migrants et sur les bénévoles que vous avez rencontrés à l'île de Chios au large de la Grèce. Et merci beaucoup à Lamine de la rédaction de Voix d'Exil pour cet entretien. Pour découvrir votre travail photographique, Jean-Pierre Vicario, on le rappelle, il est intitulé Portrait de réfugiés. Rendez-vous donc demain, mercredi 21 juin à la galerie genevoise V60. C'est à la rue des Volants de 60 à Genève pour le vernissage des expositions.
Si j'ose encore, il y a un vernissage demain soir, il y a une conférence qui sera donnée mercredi prochain, et visiblement jeudi prochain aussi parce qu'il commence à y avoir du monde. Et puis on a décidé de doubler la conférence où je vais vraiment raconter en images ce qui s'est passé.
Et c'est une exposition qui sera visible pendant plusieurs semaines ?
Alors là, elle va rester visible en tout cas 2 semaines. On prolongera pas, je ne sais pas.
Voilà. On verra tout ça. Merci beaucoup. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm et sur le site de Voix d'Exil, voixd'exil.ch. Mirage Man, c'est peut-être un titre qui sera interprété demain à la fête de la musique. C'est interprété ici par les Tucson. On en parle dans quelques secondes.
Radio Django, culture.
Et ce mercredi 21 juin, donc demain, aura lieu, Jean-Luc, la fête de la musique, un événement très populaire à Lausanne, organisé avec de nombreux acteurs culturels de la ville depuis pas mal d'années.
Oui, on va faire un tout petit peu d'histoire, mais brièvement. Hein. Alors, en 1980, c'est Jacques Lang, qui est alors ministre de la Culture de Mitterrand, et il nomme dans la foulée Maurice Fleuret, qui est directeur de la musique et de la danse. À l'occasion d'une étude, il découvre qu'il y a 5 millions de Français qui jouent un instrument de musique. Alors Jacques Lang et Maurice Fleuret se prennent à rêver de faire descendre les gens dans la rue. C'est en 1982 que la fête de la musique est donc lancée le 21 juin, jour de solstice d'été. C'est une nuit païenne se référant à l'ancienne tradition des fêtes de Saint-Jean.
Et à l'instar d'autres villes suisses, Lausanne est sollicitée en 1995 par le ministère de la Culture à participer à cet événement devenu depuis international. Un comité d'organisation se forme alors à la demande de la municipalité de Lausanne et de sa syndic à l'époque, Yvette Yagi. Ce soir, pour nous parler de cet événement incontournable qui attire chaque année plus de 40 000 spectateurs, nous avons invité Dominique Mermoux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice exécutive de la fête de la musique à Lausanne. 40 000 spectateurs, c'est conséquent. Hein.
Oui, c'est beaucoup de monde. Les rues sont pleines, les salles de concert aussi, donc on s'attend à une foule demain.
Mais c'est bien, surtout qu'ils annoncent ce beau show et c'est la nuit la plus longue.
Un soleil radieux, la nuit la plus longue.
Voilà.
Oui, et Dominique, vous êtes impliqué depuis de nombreuses années dans l'organisation de la fête de la musique à Lausanne. Alors, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l'esprit originel de cet événement qui est assez particulier à Lausanne parce qu'il y a des traditions différentes par rapport à la fête de la musique?
C'est vrai. Moi, je dis toujours, on est un peu les plus forcenés de tous les organisateurs de la fête de la musique parce qu'on se tient vraiment à la date du 21 juin, le jour du solstice d'été, quel que soit le jour de la semaine. Donc cette année, c'est mercredi. L'année passée, c'était mardi. Parfois, c'est lundi, dimanche. Et puis, du coup, la manifestation se cale complètement sur la vie du jour de la semaine et de ce qui s'y passe. En l'occurrence, cette année, c'est la fête des écoles enfantines. C'est la journée des enfants par excellence.
Donc on s'adapte, vous vous adaptez chaque année à un autre programme, etc. C'est que le lundi, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà.
Un petit peu poussé, les gens sont un peu fatigués, mais c'est une manifestation très organique, en fait. Elle évolue en fonction des mouvements du public et des habitants.
Mais vous êtes au courant vous êtes au contact du monde musical hein, tout au long de l'année. Comment sentez-vous l'évolution du panorama musical lausannois, hein, les lieux de concert, il y a quand même, ça fait bientôt une vingtaine d'années, j'ose le dire, hein, que vous êtes impliqué dans cette fête. Donc
pas
c'est
tout
vrai
à
que
fait,
c'est
mais...
pas tout à fait. Non, alors c'est moi
16
qui
ans. Prof,
mais donc, un certain nombre d'années, disons, qui permet quand même d'avoir une vision plus large de tout ce que représente ce monde musical lausannois et vaudois aussi.
Absolument. Alors c'est vrai que moi je pense que la fête de la musique est emblématique de ce foisonnement musical et culturel à Lausanne. Je pense que chaque jour, il y a au moins un concert qui est proposé à Lausanne. Il y a multiples salles de concert. Dans les églises, il y a des concerts, dans les clubs, les cafés, et dans tous les styles. Moi, j'essaie d'aller à pas mal de concerts, effectivement, et puis c'est époustouflant. Et je pense que si on menait la même étude que Maurice Fleuret a menée à l'époque à Lausanne, je pense qu'on aurait des résultats assez impressionnants. Je pense que la pratique musicale est très, très, très forte et très répandue à Lausanne.
Et c'est dû, entre autres, aux écoles hein, qui ont fleuri, hein, qui ont essaimé, que ce soit à Lausanne. Bon, maintenant, il y a des fusions d'écoles, mais... De toute façon, il y a tout le temps autant d'enfants et d'adultes qui continuent.
Absolument. L'apprentissage de la musique est très, très encouragé et très pratiqué.
Dominique Mermoux, en tant que directrice exécutive de la fête, que représente votre travail tout au long de l'année?
Alors, c'est un travail conséquent, je peux le dire. D'abord, un travail de conceptualisation avec le comité, parce qu'on se dit, la fête de la musique, c'est chaque année, le 21 juin, c'est toujours la même chose. Mais non, on essaie de voir... Quel projet on peut mettre en place, comment on peut justement tirer profit du jour de la semaine. Et ça demande une certaine réflexion avec les membres du comité. Après, il y a la recherche de fonds, il y a le lancement des inscriptions. Donc en parallèle, moi, je vais voir tous les lieux qui accueillent les concerts pour voir un petit peu ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient accueillir comme style de musique. On sollicite les musiciens par voie de presse, par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un travail de tissage. Je pense que je tisse toute une trame qui permet le jour J, c'est-à-dire demain, de vraiment vivre cette fête de la musique qui est une manifestation qui rallie tous les publics. Et tout le monde sera là, j'en suis sûre.
Donc vous êtes là ce soir. Parmi les partenaires qui se dédient justement à la fête de la musique depuis longtemps, ou les musiciens, ça, on peut noter un enjouement différent.
Oui. Alors clairement, il y a 15 ans, il fallait aller prendre son bâton de pèlerin, frapper aux portes, dire est-ce que vous seriez d'accord d'accueillir des concerts. Les plus téméraires le faisaient, et puis d'autres, il fallait un petit peu les convaincre. Et puis maintenant, on refuse personne si on peut. Mais c'est vrai que je reçois encore des demandes aujourd'hui et hier, donc on doit un petit peu coordonner avec la police du commerce que des nouveaux concerts. Sont forcément bienvenus tant qu'ils ne perturbent pas des concerts déjà prévus. Mais alors oui, on a stabilisé, je pense, le nombre de lieux participants à 40-45 contre au début 15, 20, 35. Ce qu'on encourage, c'est les initiatives propres, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui vont dire « moi j'ai envie de faire quelque chose sur ma terrasse, c'est possible, bien sûr ». Puis il y a tout ce qui a été prévu à l'avance avec une programmation faite sur la base d'inscription, sur les scènes extérieures, sur les scènes intérieures. Donc c'est un mélange de programmation et d'organisation assez fine et carrée et de spontanéité totale qui peuvent avoir lieu.
On sait qu'il y a un comité au niveau de la fête de la musique. Mm-hmm. Comment sont représentés les clubs parce qu'il y a toutes les institutions, les partenaires institutionnels, ils ont toujours été représentés. Mais actuellement, est-ce que les clubs sont représentés aussi au comité?
Alors, ils ne sont pas représentés proprement au comité, mais dans le pool de programmation des musiques actuelles. Parce que depuis l'année passée, on a un pool de programmation qui est composé d'acteurs de la musique lausannois, dont les Docs, le Romandie, Bautista Dal Rocha de Electrozan, David Lalande de la Cave du Bleu Lézard, qui est un petit club, et Marion Stucky du collectif Où êtes-vous tous, Gilles Dupuis de Jazz Plus. Donc toutes ces personnes, elles se mettent autour d'une table et elles discutent de voilà, qu'est-ce qu'on a reçu comme inscription, qu'est-ce qu'on pourrait programmer où. Et c'est vraiment un très joli bouquet de personnes qui collaborent avec un enthousiasme et puis une grande humilité, je trouve, et c'est vraiment très chouette de voir le résultat de leur travail.
Dominique, vous nous avez apporté un coup de cœur musical pour cette année.
Osman Arman.
Exactement. Voilà. Il va se produire demain soir.
Demain à 19h sur la scène de la Sala, qui est une scène qui a été mise sur pied de toute pièce par l'association de quartier L'Escale des Voisins. Mm-hmm. Et puis Osman Arman, c'est vrai que j'ai écouté sa musique, j'étais totalement emportée. Pour moi, c'est une musique qui fait rêver. Ça m'a un petit peu renvoyé à mon adolescence, quand j'avais 17 ans. J'ai eu la chance de suivre un cours de chant harmonique au gymnase. Il y avait plein de cours à option à l'époque. J'ai appris voilà, ce qu'étaient les harmoniques, le mode pentatonique. Et puis j'ai découvert la musique indienne. Et je trouve que la musique afghane de Osman Arman est très proche de la musique indienne, de la flûte indienne. Donc,
Alors on en écoute justement un extrait Osman Arman qu'on pourra écouter demain dans le quartier de la Sala sur la nouvelle scène. Ce sera à partir de 19h.
Alors c'est vrai qu'à Pôle Sud, nous avions eu aussi un grand coup de cœur pour ce musicien. Avec Fabio, on l'a invité plusieurs fois. C'est vrai, chaque fois, il nous a enchanté. Des fois, il jouait avec des plus jeunes, des fois avec un groupe, la compagnie Jeune Kaboul. Enfin, le groupe. Donc c'est vraiment une personnalité. Il nous a raconté sa vie. Voilà, c'est une vie complètement incroyable par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure au début de l'émission. Ben, voilà, il a le même parcours en fait, que tous ces gens qui arrivent encore aujourd'hui.
Ouais, très touchant.
Par contre, je vais quand même vous poser cette fameuse question, c'est toujours par boutade hein, quand même que certains musiciens disent « Mais pourquoi on va jouer à la fête de la musique ?» Surtout certains musiciens professionnels qui disent « Mais il devrait y avoir la fête des dentistes, la fête des mécaniciens, etc. » Parce qu'on sait que ouais, les gens jouent le jeu, mais les gens ne sont pas payés, justement. Enfin, les gens viennent tous jouer gratis. Alors c'est vrai que répondez-vous à ce... Enfin si, encore peut-être qu'il n'y a plus ce genre de réaction maintenant. Mais...
Un petit peu quand même. Alors d'aucuns estiment, comme Michel Buller le disait, qu'il serait d'accord de jouer la fête de la musique gratuitement le jour où la bière serait gratuite à la fête de la bière. Alors option 1, on fait un partenariat avec la fête de la bière, mais ce n'est pas très excitant. Ou alors on se dit que, sans blague, toute blague mise à part, bah, y a beaucoup de musiciens professionnels qui participent à la fête de la musique par esprit de partage, par envie de partager avec le grand public. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans certaines salles de concert, notamment dans la musique classique. Et puis, c'est finalement une question très personnelle. Nous, on respecte complètement le fait que certains musiciens souhaitent ne pas... Enfin, pour eux, c'est leur métier. C'est normal qu'ils soient payés. Et d'autres, ils sont contents de le faire. Ils ont envie de partager, de découvrir d'autres scènes, d'autres publics. Et puis, il y a de la place pour tout ça. Donc, je pense que c'est comme là où il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a des différences. Et puis, en effet, toutes ces différences. Et puis, c'est important que tout le monde soit là. Ceux qui ne veulent pas jouer gratuitement, ils peuvent être en public. Et puis, les autres jouent gratuitement.
D'ailleurs, on sait qu'à Lausanne, justement, les partenaires, on en a parlé tout à l'heure, mais les partenaires institutionnels sont très importants. Donc, quel est le jeu qu'ils jouent ? Enfin, voilà, ils ont une fonction, ils ont un statut, ils sont dans le comité. Aussi, tout au long de l'année, ils participent en fait à l'organisation de cette fête de la musique.
Bien sûr. Alors, les institutions, elles ont un rôle indéniable de soutien au comité et à la fête de la musique, et notamment aussi une expertise musicale, parce qu'on a véritablement des experts de tous les milieux musicaux et qui viennent apporter leur expérience, leur connaissance de la musique. Et puis ça, c'est absolument précieux dans une organisation comme celle-là. Et puis aussi une stabilité, parce qu'évidemment, on peut compter toutes les années sur la participation de l'EJMA, du conservatoire, de la Haute École de Musique, des maisons de quartier. C'est hyper important pour nous.
Oui, d'ailleurs, il y a un effort de décentralisation de la fête de la musique depuis 2-3 ans.
Oui.
On a vu même Lindemann qui a été joué il y a 4-5 ans à la fête de la Bourdonnette. Elle avait adoré. Je crois que c'était extraordinaire d'avoir un concert d'un pianiste tel que François Lindemann à la Bourdonnette. Et là, maintenant, vous êtes en contact avec 2-3 maisons de quartier qui, justement, montent aussi des programmes.
Voilà, il y a beaucoup d'initiatives menées par les maisons de quartier, effectivement. C'est vrai qu'à un moment donné, le centre-ville, ça devient un peu coincé. On est un peu les uns sur les autres. Puis bientôt, il y aura en plus des travaux pour construire le tram. Donc, on va de toute façon devoir un petit peu se délocaliser. Et puis, les maisons de quartier et les associations de quartier ont mené, notamment à la Bourdonnette, il y a quelques années, pour les 40 ans du quartier, et à Chailly cette année. Donc, on a la maison de quartier de Chailly avec la fondation Ebenezer, qui monte des concerts. Il y aura un cortège qui part à 16h15 de la maison de quartier de Chailly, des concerts de musique classique au temple de Chailly, et puis cette fameuse scène du quartier de la Sala avec des projets intergénérationnels, avec toutes les musiques de style de musique représentées, et complètement mise sur pied par les habitants du quartier.
Et dernière innovation, c'est les fameuses street stages depuis l'année passée. Est-ce qu'il y a du monde qui ont participé aux street stages ?
Oui, il y a du monde, et puis il y a beaucoup de demandes. En fait, le reproche qu'on nous faisait, c'était la fête de la musique. Vous dites que c'est de la musique de rue, mais ce n'est pas du tout spontané. Tout est organisé. Il n'y a pas de place pour jouer librement. Alors que c'est vrai que dans le programme, on le dit chaque année depuis plus de 20 ans, les musiciens de rue sont autorisés dans la rue sans autorisation. Et ça, c'est officiel depuis toujours. Sauf que je pense qu'à un moment donné, à Lausanne, il y a quand même un petit côté où on n'ose pas trop se mettre en avant si tout n'est pas mis en place pour ça. Et la street stage, c'est justement cette solution qui a été apportée parce que c'est des petites scènes modulables, donc c'est simple, mais on voit vraiment qu'il y a un lieu où se poser, où jouer. Par contre, c'est des scènes acoustiques quasiment. Donc l'idée, c'est de soit de se préinscrire pour être sûr d'avoir un slot, soit de venir le jour J et puis de dire est-ce que je peux jouer cet après-midi. Puis là, on nous dit à 15h30, il y a une place, tu peux venir jouer. Et puis là, tu amènes ta gratte et puis tu y vas.
Voilà. Alors justement, qu'aimeriez-vous dire aux habitants de Lausanne un jour avant la fête de la musique ?
Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux habitants de Lausanne, c'est que la fête de la musique, c'est votre fête. C'est vraiment la vôtre. Et on le voit parce que les quartiers s'approprient, les lieux s'approprient la fête. Et partagez-la sans concession. Partagez-la, laissez-vous émouvoir par les musiciens, par la multiplicité des styles et des concerts. C'est l'occasion de découvrir des styles de musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis, pour moi, ça, c'est une grande richesse. Et puis, laissez-vous toucher par la générosité des musiciens. Il y en a presque 2000, si on prend encore tous ceux qui vont jouer sur les street stages cette année. Ça fait beaucoup de monde et c'est un immense cadeau que nous donnent les musiciens.
Ouais, effectivement, on le disait en ouverture, une grosse fête qui s'organise avec 40 000 spectateurs et quelques chiffres que vous nous avez apportés, c'est une quarantaine de scènes, 165 concerts et 1900 musiciens. Voilà tout ce qui vous attend pour ce programme du 21 juin, donc demain, journée de fête de la musique. Des programmes papier sont également à disposition dans les multiples lieux à Lausanne ou vers les scènes, etc. J'imagine on peut les trouver sans difficulté.
Alors, ils sont partis comme des petits équipe. Hein, les hôtesses de notre partenaire Les Entités vont distribuer encore demain sur les grandes places où se tiendra la fête. Et puis, il y a toujours notre site internet qui est consultable sur les smartphones. Donc, allez-y. Parce que, en plus, tout se défile par heure. Donc, on peut voir en temps réel ce qui va se passer dans les prochaines heures.
Donc, c'est pratique. www.fetemusiquelausanne.ch. Merci beaucoup, Dominique Mermoz.
Merci, Fabien.
On vous souhaite une bonne journée de demain.
Merci.
Beaucoup de plaisir.
À vous aussi.
On rappelle que vous êtes, votre titre m'échappe. Voilà, vous êtes directrice exécutive de la fête de la musique à Lausanne.
C'est ça.
C'est ça. Merci beaucoup et merci à Jean-Luc pour la préparation de cet entretien. Un sujet à écouter sur notre site www.django.fm et puis surtout à profiter demain, premier jour de l'été et jour de la fête de la musique le 21 juin. Merci. Nous avons parlé de 4 sujets dans ce grand direct. Nous avions tout d'abord le collectif Jean Dutoit, nous avons parlé du militantisme féministe en Irak, de l'île de Chios avec un projet photo et la fête de la musique à l'instant, la fête de la musique édition 2017 et c'est signé Lausanne. C'était le programme de ce mardi 20 juin sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur www.django.fm. La semaine prochaine, nous découvrirons l'association Amitié à Tisser. Nous parlerons également de Casa Luna et de Patrick Morier-Genoux, ce dernier que nous allons recevoir. Vous savez, il écrit pour Lubricabrac. Ce sera donc mardi prochain à partir de 18h dans Le Grand Direct. Merci à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission, Fabio, Daniel, Voix d'Exil et Jean-Luc. Je vous souhaite une très très belle soirée et à mardi prochain, il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.